Bien, bonsoir à tous. Merci d'être parmi nous. Ce soir, nous avons le plaisir d'accueillir et d'entendre Xavier Bougarel, qui est chargé de recherche au CNRS. Xavier Bougarel est un spécialiste reconnu des Balkans. Il a publié un certain nombre d'ouvrages, dont Bosnie, anatomie d'un conflit, qui est paru à la Découverte en 1996. Et plus récemment, il a co-dirigé avec Nathalie Clayer Les musulmans de l'Europe du Sud-Est, 19e-20e siècle, chez Cartala, qui va paraître très bientôt.
Nous avons donné le bon à tirer ce matin.
Voilà, donc c'est imminent. Eh bien, écoutez, sans plus attendre, je vais lui céder la parole pour un peu plus d'une heure, 1 heure et demie de conférence, et ensuite, comme d'habitude, des questions pourra susciter son intervention. Voilà, je vous remercie.
Merci. Je remercie l'ISM de me donner l'occasion d'intervenir dans le cadre de ce cycle de conférences. Quand on parle des Balkans et quand on parle des musulmans des Balkans, entre autres, on parle souvent de nationalisme. Le thème nationalisme est récurrent dans les discours sur les Balkans d'aujourd'hui. Or, si le nationalisme a une caractéristique dans les Balkans, c'est qu'il est récent. Jusqu'à récemment, le national n'avait pas de signification, enfin, n'avait pas d'importance particulière dans les Balkans, et le national ou le nationalisme n'est devenu important que récemment, et en particulier pour les musulmans des Balkans. Et c'est autour de cette question que tournera mon intervention. Le titre que j'avais donné. Et les musulmans des Balkans, quel passage aux politiques, c'est-à-dire à quel moment les musulmans se politisent et passent au national. J'essaierai de voir avec vous à quel moment cela se produit. Mais pour bien comprendre comment cela se produit, je reviendrai d'abord en arrière. En vous présentant d'abord un espèce de panorama général des populations musulmanes des Balkans qui constituent une mosaïque très complexe à elle seule. Ensuite, en éclairant un peu la trajectoire historique de ces musulmans balkaniques dans la période post-ottomane, c'est-à-dire au 19e, 20e siècle, et finalement en m'intéressant, disons, aux 20 dernières années. Suite à la chute des régimes communistes. J'essaierai aussi, dans ce tour d'horizon, de m'interroger sur quelles sont les caractéristiques propres à l'islam balkanique. A-t-il des traits spécifiques par rapport à l'islam d'autres régions du monde? Et dans quelle mesure et à quelle fin on peut parler de l'islam balkanique comme d'un islam européen? Alors, les musulmans des Balkans partagent à la fois certains traits communs à tous les musulmans, ou pratiquement, et en même temps présentent une grande diversité. Alors, l'homogénéité des musulmans balkaniques, pour ainsi dire, des 8 millions de musulmans qui vivent dans les Balkans environ, vous avez là un tableau vous présentant les différentes communautés musulmanes des Balkans. Alors, cette homogénéité est d'abord religieuse, alors non seulement parce qu'ils sont musulmans, mais aussi parce qu'ils sont pratiquement tous des musulmans sunnites appartenant au mazhab, donc à l'école juridique hanafite, qui était l'école juridique de l'Empire ottoman. Vous avez des régions du monde où les musulmans sunnites sont divisés en plusieurs écoles juridiques. Eh bien, dans les Balkans, vous avez une seule école juridique, l'école hanafite. Alors, il y a quand même quelques exceptions à cette règle. Les principales sont la communauté Bektashi en Albanie, qui représente environ 20% des musulmans d'Albanie. Donc, les Bektashi sont une confrérie soufie qui a joué un rôle important dans l'Empire ottoman et en particulier en Albanie, et qui se sont construits en pratiquement communauté religieuse distincte de la communauté musulmane sunnite en Albanie. Et puis l'autre exception, ce sont les minorités alévis. Donc les alévis sont des musulmans qui associent des éléments du sunnisme, du chiisme et de pratiques pré-musulmanes. Ils sont surtout présents en Turquie. Si je ne m'abuse, les alévis en Turquie représentent environ 20% de la population. On en trouve également en Bulgarie et en Grèce, mais ils représentent une petite minorité, moins de 10%. Donc vraiment, on a une domination claire de l'islam sunnite de rite hanéfite. Beaucoup d'auteurs parlant de l'islam balkanique aiment à insister sur la présence dans les Balkans de tariqat, donc de confréries soufis. Et effectivement, vous avez différentes confréries soufis qui sont présentes dans les Balkans. Mais ce n'est en rien un trait spécifique à l'islam balkanique. Vous avez des mouvements confrériques à peu près partout dans le monde musulman, et les confréries ne sont pas plus importantes dans les Balkans qu'ailleurs. D'autre part, les confréries les plus représentées dans les Balkans, à savoir la Naqshbendiya et la Halvetiya, sont des confréries relativement orthodoxes, donc relativement compatible avec l'orthodoxie sunnite. Donc il faut relativiser cette idée que l'islam balkanique serait un islam d'un type particulier, car il y a un islam soufi. Il y a du soufisme dans l'islam balkanique, mais l'islam balkanique n'est pas un islam soufi. La majorité des musulmans des Balkans n'appartiennent pas à une confrérie soufie. Et puis un autre point sur lequel on met souvent l'accent pour définir l'islam balkanique, ce sont les pratiques populaires hétérodoxes qui existent chez les musulmans des Balkans. Alors on pense avant tout aux différents pèlerinages soufis qu'on peut trouver en Bosnie, en Bulgarie, en Albanie, etc., à toutes les pratiques magiques qui peuvent passer par la fabrication d'amulettes, etc. Et là encore, ces pratiques hétérodoxes ne sont en rien propres aux Balkans. Si vous allez en Afrique subsaharienne, vous trouverez des pèlerinages, vous trouverez ô combien de pratiques magiques. Donc on ne peut pas faire du soufisme ou des pratiques populaires hétérodoxes une essence de l'islam balkanique qui le différencierait du reste du monde musulman. De façon générale, je pense que c'est toujours assez dangereux de vouloir trouver une essence à l'islam dans les Balkans ou ailleurs. Plutôt qu'essayer de rechercher une essence partagée par tous et permanente dans l'histoire, il me semble plus intéressant d'essayer de voir la pluralité interne de cette religion et de voir comment différents acteurs politiques ou religieux vont mobiliser ou rejeter certains aspects de cette religion et se confronter pour définir de façon conflictuelle cet islam sur place et dans le moment présent. Alors, j'ai parlé des caractéristiques ou non caractéristiques de l'islam dans les Balkans. Je voudrais maintenant peut-être vous montrer une carte qui vous donnera une idée de la répartition. Alors, comment ça marche ? Voilà. Voilà. Avec cette carte, vous pouvez voir la répartition géographique des musulmans balkaniques. Donc vous avez les régions où ils sont majoritaires. Donc si on fait exception de la Turquie, ça sera essentiellement l'Albanie, le Kosovo et certaines régions plus dispersées en Bosnie et en Bulgarie. Je voudrais aussi parler de ce qui crée des différences entre eux, à savoir essentiellement l'appartenance à différents groupes ethno-linguistiques, et j'en dénombre quatre principalement. Le premier de ces groupes ethno-linguistiques est le groupe des musulmans albanophones. Alors, en ce qui concerne les albanophones ou les Albanais, il faut bien préciser que tous les Albanais ne sont pas musulmans. Vous avez en particulier en Albanie même des Albanais orthodoxes ou catholiques. Et les musulmans représentent environ 70% de la population de l'Albanie. Vous trouvez aussi des Albanais, alors là, à 95% environ musulmans au Kosovo et en Macédoine, et des groupes plus dispersés en Serbie et au Monténégro. Et pour vous permettre de mieux visualiser ces groupes, je vais vous montrer une autre carte. Alors, ce sont des cartes qui sont issues du livre « Les musulmans dans l'Europe du Sud-Est ». Donc, vous avez la primeur. Donc là, vous avez la même carte avec les régions de peuplement musulman, mais en distinguant les principaux groupes ethno-linguistiques. Le deuxième groupe, c'est celui des slavophones, à savoir essentiellement les bosniaques vivant en Bosnie-Herzégovine, où ils représentent 45% de la population, et dans le Sandjak. Le Sandjak est cette petite région qui se trouve entre la Serbie et le Monténégro. Mais vous avez aussi, hormis les bosniaques, d'autres petits groupes de musulmans slavophones, tels que les Pomaks en Bulgarie et les Torbèches en Macédoine, donc les Torbèches étant des musulmans de langue macédonienne. Le troisième groupe, ce sont les Turcs ou les turcophones, que l'on retrouve essentiellement en Bulgarie, où ils représentent 10% de la population, en Grèce, c'est-à-dire en Thrace occidentale, près de la frontière avec la Turquie, et de façon plus marginale en Macédoine et en Roumanie. Enfin, quatrième groupe, qui n'est pas représenté sur cette carte, qui l'était sur la précédente, c'est le groupe des Roms. Alors là encore, tous les Roms ne sont pas musulmans. Vous avez beaucoup de Roms orthodoxes ou évangélistes. Les populations Roms, musulmanes ou pas, sont des populations extrêmement dispersées, donc difficiles à représenter sur une carte. Voilà donc le paysage un peu des populations musulmanes dans les Balkans. Alors, chacun de ces groupes connaît des configurations politico-religieuses différentes. Et en particulier, dans chacun de ces groupes, la manière dont identité religieuse et identité nationale s'articulent est différente. Pour illustrer ce propos, j'opposerai en particulier les Bosniaques et les Albanais. Pourquoi ? Les Bosniaques ont constitué leur identité nationale face aux Serbes orthodoxes et aux Croates catholiques en insistant sur leur appartenance à l'islam et malgré une langue commune avec les Serbes et les Croates. Donc l'identité nationale musulmane se crée autour de la religion et malgré la langue. Eh bien, dans le cas albanais, c'est exactement le contraire. C'est-à-dire, tous les Albanais d'Albanie se considèrent pareillement albanais, qu'ils soient musulmans, orthodoxes ou catholiques, parce qu'ils parlent la même langue. Donc chez les Albanais, l'identité nationale se construit autour de la langue et malgré les différences religieuses. Donc vous voyez deux cas complètement opposés. Vous avez des situations, je ne sais pas comment il faudrait les qualifier, de intermédiaires chez les Turcs, où la langue et la religion se renforcent mutuellement, c'est-à-dire les Turcs parlent turc et sont musulmans, alors que les Bulgares parlent bulgare et sont orthodoxes. Donc là, on a les deux facteurs se renforcent. On retrouve ça d'une certaine façon chez les Albanais du Kosovo et de Macédoine, où les Albanais de ces régions-là, contrairement à ceux d'Albanie, sont très majoritairement musulmans et font face à des groupes slavophones, serbes ou macédoniens, de confession orthodoxe. Alors, première différence, donc, et c'est pour ça qu'il est difficile de porter, il faut éviter de porter des jugements généralisants et un peu à l'emporte-pièce sur ce qui se passe dans les Balkans et sur ce qui se passe chez les musulmans des Balkans, parce qu'on voit qu'on a affaire à des constructions nationales très diverses. Deuxième différence qu'on voyait dans le premier tableau de tout à l'heure, j'espère pouvoir le trouver. Donc si on reprend ce premier tableau, vous verrez qu'une deuxième différence importante distinguant les différentes populations musulmanes des Balkans, c'est leur proportion dans la population totale du pays. C'est-à-dire vous avez des pays dans lesquels les musulmans sont majoritaires, c'est le cas depuis 1912 en Albanie, et c'est le cas de plus récemment au Kosovo et d'une certaine façon en Bosnie-Herzégovine, même si c'est plus discutable. Et puis d'autres pays où les musulmans représentent une minorité importante, et puis d'autres pays comme la Grèce ou la Roumanie, où les musulmans représentent des minorités, de très petites minorités. Alors, c'est important parce que on va le voir en fonction du poids des musulmans, du poids que les musulmans représentent dans la population totale. Eh bien, la façon d'exprimer des revendications politiques, la nature des revendications politiques varie immanquablement. Vous n'allez pas formuler vos revendications politique de la même façon quand vous êtes en Roumanie, 0,3% de la population, et quand vous êtes au Kosovo, 90%. Les enjeux ne sont pas les mêmes, les rapports de force ne sont pas les mêmes, etc. Ce qui est important de noter, c'est que depuis les années 90, comme je l'ai dit déjà, il y a eu, avec l'éclatement de l'ex-Yougoslavie, au sein de laquelle les musulmans représentaient des minorités, eh bien, vous avez deux nouveaux États à majorité musulmane qui sont apparus, le Kosovo et la Bosnie-Herzégovine. Et ça change complètement le paysage de l'islam balkanique, puisque avant 1990, l'expérience historique musulmane dans la période post-ottomane était essentiellement une expérience minoritaire. Être musulman dans les Balkans, ça voulait dire, sauf pour l'Albanie, ça voulait dire être minoritaire et gérer cette situation minoritaire. Eh bien, aujourd'hui, les musulmans du Kosovo et les musulmans de Bosnie-Herzégovine ne se vivent plus comme minoritaires et donc pensent autrement leur avenir politique. Et puis, troisième différence importante, vous avez des régions, alors là je vais revenir à la carte, vous avez des régions où tous les musulmans appartiennent au même groupe ethno-national. Le meilleur exemple de cela, c'est la Bosnie-Herzégovine, où tous les musulmans sont bosniaques à quelques milliers d'Albanais et de Roms près. Vous avez d'autres régions, comme par exemple le sud du Kosovo, comme la Macédoine occidentale, où plusieurs groupes musulmans cohabitent sur le même territoire, et où vous allez avoir des phénomènes d'assimilation, en particulier des petits groupes musulmans par les groupes les plus importants. Par exemple, au Kosovo, le groupe albanais va tendre à assimiler les petites populations turcophones ou slavophones. Et ces régions de rencontre entre différents groupes musulmans sont des régions extrêmement intéressantes parce que c'est là où on peut le mieux observer des identités nationales qui sont encore aujourd'hui en train de se faire, de se transformer et dans certains cas de se défaire. Alors, ces musulmans balkaniques, dans toute leur diversité, quelle expérience historique ont-ils? Alors, je m'intéresserai simplement à la période post-ottomane, c'est-à-dire 19e, 20e siècle, et j'ai intitulé cette partie « Les musulmans balkaniques du millet à la nation ». Alors, je suppose que vous savez ce qu'est le millet dans l'Empire ottoman. Les millets sont des communautés religieuses non musulmanes bénéficiant d'une large autonomie scolaire et culturelle et juridique, mais n'exerçant aucune souveraineté politique. Donc, dans l'Empire ottoman, le millet, c'était avant tout le millet orthodoxe, le millet juif, le millet arménien. Je dois en oublier. Mais enfin, disons, les plus importants sont ceux-là. Eh bien, au début de la période post-ottomane, les musulmans des Balkans vont voir un peu la situation qu'il y avait dans l'Empire ottoman s'inverser à leur désavantage, et ils vont se retrouver eux-mêmes au sein des États balkaniques constitués en des sortes de millets musulmans. Alors, il faut savoir qu'avant 1878, quand les États balkaniques commencent à se former, la question du statut des populations musulmanes ne se pose pas, tout simplement parce que les musulmans sont expulsés manu militari, voire massacré par les jeunes États balkaniques. Et donc, jusqu'en 1878, il n'y a pas de minorité musulmane dans les nouveaux États balkaniques. Les musulmans ont été expulsés. C'est une manifestation précoce de ce qu'on appelle le nettoyage ethnique. Avec le congrès de Berlin en 1878, les deux premières garanties juridiques vont être accordées aux populations musulmanes dans les États balkaniques. Et donc, on va voir de premiers groupes importants de populations musulmanes rester sur place malgré le départ de l'Empire ottoman. C'est essentiellement le cas en Bosnie-Herzégovine et en Bulgarie. Alors, à partir du moment où les États balkaniques ont d'importantes populations musulmanes sur leur territoire, comment vont-ils gérer ces populations? Eh bien, la première chose qu'ils font, c'est qu'ils créent des institutions religieuses islamiques propres à l'État en question. C'est-à-dire, la Bulgarie va mettre en place ses propres institutions religieuses, la Serbie va faire de même, l'Autriche-Hongrie qui occupe la Bosnie-Herzégovine va faire de même, etc., etc. On va ensuite organiser le fonctionnement des principales institutions religieuses islamiques, que sont les écoles religieuses, les madrasas, que sont les waqfs, donc les fondations pieuses, et que sont les cours chariatiques, puisque les questions de statut personnel, c'est-à-dire questions de mariage, d'héritage, d'adoption, etc., sont réglés par des cours chariatiques, donc fonctionnant sur la base de la charia. Et les États balkaniques assurent le fonctionnement de ces principales institutions religieuses autour duquelles vont se regrouper les populations musulmanes désormais séparées de l'Empire ottoman. Et c'est bien parce que ces populations musulmanes s'organisent autour de leurs institutions religieuses dont le fonctionnement et l'autonomie est garanti par l'État dans lequel elle se trouve, qu'on peut parler, à mon sens, de création de millets musulmans. Mais qui dit millet musulman dit identité religieuse et non identité nationale. C'est-à-dire que les musulmans des Balkans se définissent à travers leurs institutions religieuses en tant que musulmans. Et dit aussi renoncement à tout projet de souveraineté politique propre, ce qui veut dire en clair renoncement à tout projet national. C'est-à-dire que les élites politiques et religieuses musulmanes de la fin du XIXe siècle et du début du XXe siècle renoncent délibérément à tout projet national pour mieux protéger leurs institutions religieuses. Alors, il y a une exception à cette règle, je serais tenté de dire toujours la même, c'est l'Albanie. Pourquoi ? Parce que l'Albanie, qui est créée en 1912, est un pays majoritairement musulman. Alors que dans les autres pays balkaniques, les musulmans représentent des minorités, eh bien en Albanie, les musulmans sont majoritaires. Et l'État va lui aussi créer des institutions religieuses, non seulement pour les musulmans, mais pour les orthodoxes, pour les catholiques, créer des institutions religieuses nationales, c'est-à-dire on va créer une église orthodoxe albanaise, on va créer une communauté musulmane albanaise, on va négocier avec le Vatican des accords sur la nomination des évêques, c'est-à-dire on va essayer de nationaliser la religion, mais cet État albanais, très tôt, va encourager une sécularisation rapide de la population. Et dans l'entre-deux-guerres, l'Albanie sera le premier pays des Balkans à abolir les cours chariatiques pour imposer un code civil inspiré du code civil suisse. Et ce sera également le premier pays balkanique à interdire le voile, à interdire aux femmes de porter le voile. Donc on a une situation apparemment paradoxale où le seul pays majoritairement musulman de la région est le premier à démanteler les institutions et les symboles de l'islam dans la vie publique. Inversement, c'est la Grèce qui maintiendra le plus longtemps sa population musulmane, donc concentrée en Thrace occidentale, dans un véritable statut de millet musulman. Elle refuse de reconnaître à cette minorité tout caractère national. Elle refuse en particulier que cette minorité s'appelle minorité turque. Le seul terme autorisé est musulman. Et elle accorde au moufti des compétences juridiques pour les questions de statut personnel. Et elle accorde aussi une importance très importante aux VACF, donc aux fondations pieuses, pour l'organisation de la population musulmane de Thrace occidentale. Et ce millet musulman en Grèce dure jusqu'à aujourd'hui. Et il est le seul. Pourquoi ? Eh bien parce qu'en 1945, avec l'arrivée de régimes communistes dans pratiquement tous les pays de l'Europe du Sud-Est, sauf la Grèce, eh bien les nouveaux régimes politiques rompent avec cette politique de millet musulman et entreprennent de façon violente, de démanteler toutes les institutions religieuses en place depuis la fin de la période ottomane. C'est en ce qui concerne l'organisation religieuse. Et j'ai expliqué tout à l'heure que, en se constituant en millet musulman, les musulmans des Balkans renoncent au moins implicitement à tout projet national. Ils se qualifient eux-mêmes de musulmans. Jusqu'en 1945, les turcophones de Bulgarie se qualifient de musulmans, les slavophones de Bosnie-Herzégovine se qualifient de musulmans, ils ne vont pas se qualifier de bosniaques, ils se qualifient de musulmans. En Grèce, les musulmans se qualifieront comme tels jusque dans les années 80, et c'est simplement au milieu des années 80 qu'ils commenceront à revendiquer une identité nationale turque. Donc vous voyez, le passage au national, le passage au politique dans le cas grec date des années 80, c'est-à-dire que c'est quelque chose de très tardif, mais j'y reviendrai. Ce renoncement à tout projet national, il s'exprime aussi par le fait que les populations musulmanes des Balkans avant 1945 n'organisent pas de partis politiques propres. Il n'y a pas, dans les Balkans avant 1945, de partis politiques représentant les populations musulmanes. Alors, il y a une exception partielle, c'est en Bosnie-Herzégovine, un parti qui s'appelle l'Organisation musulmane yougoslave, la JMO. Mais cette JMO va elle-même fusionner avec le Parti radical serbe en 1935, donc va elle-même renoncer à son existence propre pour se fondre dans un parti plus large. Donc, cette absence d'organisation politique propre exprime aussi le fait que ces populations musulmanes, jusqu'en 1945, elles sont à un stade pré-politique et pré-national de leur organisation, et que elles ne s'organisent pas autour d'un parti politique, mais autour d'institutions religieuses, comme je l'ai dit tout à l'heure. Alors, je passe sur les liens qu'elles entretiennent à l'époque avec le reste du monde musulman. On pourra en parler si vous voulez. Donc, je l'ai dit, les régimes communistes ont supprimé ces institutions religieuses islamiques de façon très autoritaire. La plupart des écoles religieuses sont fermées, les vakf sont nationalisées, les tribunaux chariatiques sont abolis en Yougoslavie et en Bulgarie. Et ce qu'il reste des institutions religieuses est placé sous le contrôle étroit du parti et de la police politique. Mais les régimes communistes vont produire quelque chose d'extrêmement important pour le passage ultérieur des musulmans aux politiques. Ce sont de nouvelles élites laïques. Au XIXe siècle et au début du XXe siècle, les musulmans des Balkans étaient très peu scolarisés. Les musulmans ayant fréquenté le lycée, étant allés à l'université, étaient très très peu nombreux. Donc vous n'aviez pas d'élites intellectuelles et politiques capables de formuler un projet national. Les régimes communistes, voulant intégrer les populations musulmanes dans la modernité, dans la modernisation communiste, vont former des médecins, des ingénieurs, des professeurs musulmans. Et ces nouvelles élites laïques formées par le régime communiste vont devenir les porteurs de nouvelles identités nationales. Les identités nationales vont se cristalliser à l'époque communiste autour de ces nouvelles élites produites par le communisme. Cette cristallisation d'identité nationale se fait d'autant plus facilement que, suivant en cela le modèle de l'Union soviétique, les régimes communistes reconnaissent les identités nationales des différentes populations musulmanes. La Bulgarie reconnaît officiellement l'existence d'une minorité nationale turque, ce qui n'était pas le cas avant 1945. La Yougoslavie Tito reconnaît l'existence d'une minorité nationale albanaise, ce qui n'était pas le cas avant 1945. Avant 1941, dans la première Yougoslavie, les albanophones du Kosovo et de Macédoine étaient considérés comme des musulmans. On les considérait comme une minorité religieuse et non pas comme une minorité nationale. Le régime communiste change de ça. En 1968, la Yougoslavie Tito reconnaît une nation musulmane en Bosnie-Herzégovine. Pour distinguer musulman au sens national de musulman au sens religieux, on décide, dans le premier cas, d'écrire musulman avec un M majuscule, ce qui créera un certain nombre de confusions et de problèmes dont on aura du mal à sortir. Mais la volonté des régimes communistes, c'est de créer des minorités nationales sécularisées. On ne veut plus des minorités religieuses non souveraines, on ne veut plus des millets musulmans, on veut des minorités nationales sécularisées et bien sûr supportant le régime communiste. Alors je passe sur les variations, il y a pas mal de variations dans ces politiques. Mais ce sont... Euh, c'est, euh, c'est ce ce passage au national pendant la période communiste, grâce à la reconnaissance institutionnelle de ces minorités nationales, grâce à l'élaboration de l'identité nationale qui va avec, c'est-à-dire quand on reconnaît une nation musulmane en Bosnie-Herzégovine en 1968, il faut aussi créer de toutes pièces, quasiment, une identité nationale, une histoire, une littérature. Sur la question de la langue, est-ce que les musulmans ont une langue propre ou parlent serbo-croate comme les autres, il y a des débats, mais il faut créer cette identité nationale qu'on vient de reconnaître. Eh bien, ce processus de modernisation et de nationalisation qui se passe à la période communiste, mais sous des régimes dictatoriaux, qui va trouver son aboutissement avec l'effondrement des régimes communistes en 1989-90. Puisque à partir de ce moment-là, c'est minorités nationales ou ces groupes nationaux dotés de leurs propres élites intellectuelles et politiques vont pouvoir passer ouvertement aux politiques, passer à l'action politique. Comment ? En créant leur propre parti. Et vous voyez, en 1989-90, à travers tous les Balkans, les populations musulmanes se dotaient de leur propre parti politique. Alors, les principaux, quels sont-ils ? C'est la Ligue démocratique du Kosovo au Kosovo, le Mouvement pour les droits et la liberté en Bulgarie, le Parti de l'Action démocratique en Bosnie-Herzégovine ou le Parti de la prospérité démocratique en Macédoine. Alors, vous remarquerez qu'il n'y a jamais de terme ethnique dans le libellé du parti, mais ce sont bel et bien des partis ethniques ou ethno-nationales. Mais simplement, dans les premiers mois après l'effondrement des partis communistes, les lois sur les partis politiques interdisaient les partis à base ethnique ou religieuse. Donc on ne crée pas le parti turc de Bulgarie, on crée le mouvement pour les droits et la liberté, mais c'était le parti turc. Et tous ces partis sont conduits par ces élites intellectuelles et politiques créées à l'époque du régime communiste. Et un bon nombre des leaders de ces nouveaux partis ethno-nationaux sont d'anciens membres du Parti communiste ou d'organisations satellites. Par exemple, si vous prenez Ibrahim Rugova, donc le leader des Albanais du Kosovo, c'est l'ancien président de l'Union des écrivains du Kosovo à l'époque communiste. Il y a une exception. Comme vous voyez, dans les Balkans, il y a toujours la règle et puis il y a toujours l'exception. Il y a une exception, c'est le Parti de l'Action démocratique, donc qui représente les musulmans slavophones de Bosnie-Herzégovine et du Sandjak, dont les fondateurs sont issus d'un mouvement que moi je qualifie de pan-islamiste, qu'on pourrait qualifier d'islamiste, d'islamo-nationaliste. En tout cas, ce mouvement s'appelle les Jeunes musulmans. C'est un mouvement qui est apparu à la fin des années 30, qui a été réprimé dans les années 40, mais qui a réussi à se reconstituer de façon plus ou moins clandestine dans les années 70. Le Parti de l'Action démocratique, donc en Bosnie-Herzégovine et au Sandjak, est créé par ces gens-là, par un courant, disons, pan-islamiste ou islamiste. Et c'est autour de ce noyau pan-islamiste ou islamiste que vont s'agréger les autres acteurs et les autres leaders intellectuels et politiques de la communauté musulmane de Bosnie-Herzégovine, mais avec ce noyau pan-islamiste et islamiste gardant le contrôle du parti, gardant la direction du parti, et donc dans un second temps de l'État, au moins jusqu'à la fin des années 90. Alors, il y a aussi deux autres exceptions où il n'y a pas de parti ethno-national. La première exception est l'Albanie et la deuxième est la Grèce. Donc vous voyez, même ce passage aux politiques assez général dans les années 90 a quand même des formes qui diffèrent parfois. En Albanie, il n'y a pas de parti confessionnel, disons, D'une part parce que la loi sur les partis politiques l'interdit et que en Albanie au moins cette loi est respectée, et puis parce que les clivages qui divisent la vie politique albanaise sont des clivages entre communistes et anticommunistes, entre gens du sud et gens du nord, ce ne sont pas des clivages religieux. Et donc il n'y a pas de velléité ou il n'y a que des velléités très faibles de créer des partis confessionnels. On voit là encore comment cette identité albanaise, en Albanie au moins, dépasse les clivages confessionnels. C'est-à-dire qu'on est albanais avant d'être musulman, orthodoxe ou catholique, même si chacun va avoir sa propre façon d'être albanais. En Grèce, les raisons pour lesquelles il n'y a pas de parti politique représentant la minorité musulmane ou minorité turque sont exactement inverses. C'est-à-dire que les autorités grecques font tout pour maintenir la minorité musulmane dans son statut de minorité religieuse et donc réprime durement toute tentative de s'organiser sur une base nationale en tant que minorité turque. Et donc, il y aura une tentative de création d'un parti politique dirigé par un député qui s'appelle Sadik Ahmet, qui mourra dans un accident de voiture. Cette tentative échouera et donc les députés musulmans ou turcs sont encore aujourd'hui élus sur les listes des grands partis politiques grecs. Donc on a en Grèce une situation qui était la situation typique des années 20 et 30 dans les autres pays balkaniques. Enfin, la Grèce n'ayant pas connu le communisme, est devenue une espèce de conservatoire de toutes les pratiques qu'on pouvait trouver avant la Seconde Guerre mondiale dans le reste des Balkans. Alors, je reviens à ces partis politiques. Évidemment, en fonction de l'importance de la population musulmane, en fonction du contexte politique général, en fonction aussi de comment vont réagir les élites politiques en place, eh bien les revendications vont être très différentes et iront de la simple revendication de droits culturels, tels que l'enseignement de la langue turque à l'école en Bulgarie, à une revendication, par exemple, d'indépendance dans le cas du Kosovo et de façon plus ambiguë en Bosnie-Herzégovine. Mais il faut insister sur l'importance de l'attitude des élites politiques en place. Pourquoi les choses ont dégénéré au Kosovo ? Pourquoi la revendication d'indépendance est devenue une revendication unanime des Albanais du Kosovo, d'une part, et pourquoi cette revendication, qui était d'abord portée par des moyens d'action non violents, tels que prônés par Ibrahim Rugova, a dans un deuxième temps été portée par un mouvement de lutte armée ? Eh bien, vous ne pouvez pas comprendre cette radicalisation au Kosovo si vous ne prenez pas en compte la politique du régime de Milosevic vis-à-vis des Albanais du Kosovo. C'est-à-dire que si Milosevic n'était pas allé à l'affrontement contre les Albanais du Kosovo, s'il n'avait pas mis en place une politique d'apartheid dont le but final était de pousser ces Albanais à l'émigration pour modifier la structure démographique de la province, eh bien, les choses se seraient peut-être passées autrement. La preuve, c'est qu'en Bulgarie, en 1989, la situation était au moins aussi tendue qu'au Kosovo. Le régime communiste finissant avait essayé d'assimiler de force la minorité turque, y compris en obligeant les Turcs à prendre des prénoms et des noms bulgares. C'est-à-dire qu'il y avait une campagne de changement des prénoms et des noms. Il y avait une interdiction absolue de parler turc dans l'espace public et tout ça avait donné lieu à des émeutes assez sanglantes. Eh bien, les nouveaux dirigeants du pays en 1990 ont eu l'intelligence d'apaiser les choses rapidement, d'une part en revenant sur toutes ces mesures d'assimilation, en rétablissant les noms et les prénoms turcs, en rétablissant le droit d'usage de la langue turque, et surtout en donnant aux représentants politiques de la minorité turque la possibilité d'être associés à l'exercice du pouvoir et à l'élaboration d'un certain nombre de lois. Et la Bulgarie de pays en crise est devenu un modèle de gestion des relations interethniques. Je vois que le temps passe. Alors, donc, en fonction des circonstances, les revendications peuvent varier et les moyens de satisfaire ces revendications peuvent varier aussi. Et de ce point de vue-là, il y a quelque chose de très important qui se passe dans les années 90, c'est que pour la première fois dans la période ottomane, dans la période post-ottomane, pardon, des populations musulmanes de la région défendent leurs revendications et défendent aussi leur peau en prenant les armes. Les musulmans de Bosnie-Herzégovine face à l'offensive serbe et à la campagne serbe de nettoyage ethnique s'enrôlent dans l'armée de Bosnie-Herzégovine et les Albanais du Kosovo puis de Macédoine décident de soutenir leurs revendications par des actions de guérilla. Et c'est la première fois depuis la fin de la période ottomane que des musulmans dans les Balkans prennent les armes pour eux-mêmes. On a vu des musulmans dans le mouvement des partisans en Yougoslavie, on a vu des musulmans participant dans un camp et dans l'autre au moment de la guerre civile grecque, mais on n'a pas vu, avant les années 90, de musulmans prenant les armes pour défendre leur propre cause. Et c'est là encore une illustration du fait que les années 90 sont les années du passage au politique des musulmans balkaniques. Prendre les armes pour défendre une revendication, c'est un acte éminemment politique. Alors, dans le même temps, se passe un autre processus, c'est le rapprochement, le resserrement des liens entre identité religieuse et identité nationale. Toute la politique des régimes communistes avait été d'encourager l'identité nationale des populations musulmanes pour mieux affaiblir leur identité religieuse. Et donc de définir des identités nationales de type sécularisé. Eh bien, dans les années 90-2000, les liens se resserrent. C'est particulièrement manifeste en Bosnie-Herzégovine, malgré le changement de nom qui a lieu en 1993, puisqu'en 1993, les représentants de la nation musulmane de Bosnie-Herzégovine décident d'abandonner le nom national musulman pour s'appeler désormais bosniaque, qui a un nom plus laïque que musulman. Mais paradoxalement, en même temps, on va tout faire pour replacer l'islam au centre de cette nouvelle identité nationale bosniaque, et on aura même des tentatives de réislamiser la vie quotidienne. Vous aurez en particulier des attaques contre les mariages mixtes, vous aurez des fatwas plus ou moins bienvenus et bien accueillis pour interdire la vente de l'alcool. Vous aurez aussi une très forte présence de l'islam dans l'armée, sur lequel je ne peux pas m'étendre, mais je pourrais en parler si vous voulez. En fait, dans le cas bosniaque, ce resserrement des liens entre identité nationale et identité religieuse est particulièrement flagrant. Mais on le retrouve aussi, par exemple, dans le cas albanais. Traditionnellement, le nationalisme albanais est plutôt anti-religieux, parce que la religion, potentiellement, est un facteur de division de la nation albanaise. Et par exemple, on ne peut pas expliquer le fait que l'Albanie a été, pendant la guerre froide, le seul État officiellement athée de la planète, si on ne rattache pas ça à cette tradition du nationalisme albanais qui rejette les religions et qui rejette en particulier l'islam et la période ottomane. Eh bien, vous avez maintenant de nouveaux courants en Albanie et au Kosovo, parmi les religieux, mais aussi parmi certains intellectuels, qui redéfinissent complètement le rapport entre identité nationale albanaise et islam, et qui expliquent en particulier que la conversion à l'islam a protégé les Albanais de l'assimilation par les Grecs et par les Serbes. Donc l'islam est, donne une contribution positive à l'identité nationale albanaise. Et ça, c'est quelque chose de très nouveau. Je passe sur les Turcs. Les Turcs de Bulgarie ou de Grèce ne sont pas insensibles à ce qui se passe en Turquie, évidemment. Et donc l'émergence de la synthèse turco-islamique en Turquie dans les années 80, l'arrivée des islamistes au pouvoir en Turquie, a évidemment des répercussions en Bulgarie et en Grèce, même si les Turcs de ces régions ont été très sécularisés, en particulier en Bulgarie et en Roumanie, avec le communisme, et aussi se considèrent comme plus ottomans que leurs frères de la Turquie et de l'Anatolie voisine, et donc mettent en avant leur sécularisme pour se distinguer de leurs cousins de Turquie. Dans ce contexte, et dans un contexte de rétablissement des libertés religieuses, les institutions religieuses islamiques ont connu un fort renouveau, qui passe en particulier par l'ouverture de nouvelles écoles, de nouvelles médressas, par la construction de mosquées, par le développement de la presse et de l'édition de littérature religieuse. Mais en aucun cas, il n'y a de retour à l'avant 1945. C'est-à-dire, il n'y a pas de restauration de la situation antérieure. Personne ne demande le rétablissement des cours chériatiques pour les questions de statut personnel. La dénationalisation des wakfs est très partielle et très lente, parce qu'en 45 ans, eh ben, les biens ont changé de main, on a construit sur des terrains qui étaient libres avant, etc. Malgré les rêves qu'ont pu entretenir certains dirigeants religieux, eh bien, il n'y a pas de retour à l'avant 1945. Les effets de la sécularisation de l'époque communiste sont largement irréversibles. Et puis, les institutions religieuses islamiques se trouvent confrontées à quelque chose de très nouveau pour elles, c'est le pluralisme religieux. C'est en même temps qu'on a rétabli un pluralisme politique, eh bien, c'est rétabli de lui-même aussi un pluralisme religieux, avec différents acteurs locaux ou venant du reste du monde musulman qui viennent en Bulgarie, en Bosnie, au Kosovo, proposer leur version de l'islam. Et maintenant, vous n'avez plus une version officielle de l'islam, vous avez X versions de l'islam, et les institutions religieuses, mais aussi les croyants, doivent se débrouiller un peu dans ce qui est devenu un marché religieux avec avec une offre relativement diversifiée. Et c'est cette pluralisation de l'islam qui est sûrement plus caractéristique de ce qui se passe aujourd'hui dans les Balkans qu'une supposée radicalisation. On parle assez souvent de l'apparition dans les Balkans de courants wahhabites, de courants néo-salafistes, etc. Et ces courants existent, mais il faut savoir aussi distinguer qui est qui et qui fait quoi dans ces courants. Mais ces courants, appelons-les extrémistes, sont plus une partie spectaculaire, mais minoritaire, de ce vaste pluralisme religieux qui se construit dans les Balkans aujourd'hui, qu'un signe d'une vraie radicalisation de l'islam dans la région. Je vais dire un mot sur les acteurs extérieurs. Là aussi, on se focalise beaucoup quand on parle des acteurs extérieurs arrivés dans les Balkans depuis 1990, sur les acteurs, soit sur les moudjahidines, donc les combattants étrangers qui sont venus en particulier en Bosnie-Herzégovine entre 1992 et 1995, soit sur les ONG et les mouvements de prédication liés à l'Arabie saoudite. Avec là encore la question de quand on dit Arabie saoudite, on parle de qui exactement? Parce que bon, le pouvoir en Arabie Saoudite fonctionne un peu en constellation, représente une constellation complexe. Donc, quand on dit l'Arabie Saoudite finance telle mosquée, il faut savoir quel prince ou quelle fondation, etc. Et puis, beaucoup des courants néo-salafistes qui sont présents dans les Balkans se revendiquent en fait d'ouléma qui sont en opposition à la monarchie saoudienne. Mais on insiste beaucoup là-dessus et on voit des articles alarmistes disant que l'islam wahhabite menace l'islam traditionnel balkanique, cet islam traditionnel que j'ai essayé de relativiser un peu au début, qui serait soufi, tolérant, hétérodoxe, etc., et qui serait menacé par ce surgissement d'un islam dit wahhabite. Eh bien, je pense qu'il faut doublement relativiser ce propos. D'une part, je l'ai déjà dit un peu, saoudien ou wahhabi ou salafiste, ça peut vouloir dire tout et n'importe quoi. Et il faut distinguer en particulier entre des mouvements néo-salafistes de type piétiste, c'est-à-dire qui vont insister sur l'orthodoxie de la pratique, y compris dans le port de la barbe, le port des vêtements, etc., mais qui se désintéressent complètement de la politique et qui rejettent toute action violente. Donc vous avez ces salafistes de type piétiste qui sont les plus nombreux et qui sont en particulier ceux qu'on retrouve à l'intérieur des institutions religieuses islamiques. C'est-à-dire c'est ceux que les institutions religieuses islamiques intègrent petit à petit. Et les institutions religieuses islamistes transforment les salafistes en les intégrant et les salafistes transforment les institutions religieuses islamiques en les rejoignant. C'est un processus où les deux acteurs, les deux protagonistes influencent l'un sur l'autre. Et puis, vous avez une mouvance plus réduite, mais évidemment plus spectaculaire, qui est la mouvance des salafistes de type djihadiste, qui sont essentiellement les jeunes croyants qui ont été recrutés au moment du djihad en Bosnie par les moudjahidines venus de l'étranger. Alors ce mouvement djihadiste a connu une certaine apogée en Bosnie-Herzégovine dans les années 90 avec un mouvement qui s'appelait l'Organisation de la Jeunesse Islamique Active. Mais dans les années 2000, ce mouvement djihadiste d'abord a décliné et ensuite a connu de nombreuses divisions internes sur la question du respect de la loi du pays d'accueil ou pas. C'est-à-dire, fallait-il respecter la loi du pays d'accueil ou, au contraire, la charia étant notre loi, eh bien, on ne se conformait pas à la loi du pays d'accueil. Et ça a donné lieu à de graves conflits au sein de ce courant. L'enjeu concret, c'était par exemple, est-ce qu'on a le droit d'attaquer une banque ou une station-service ou un commerce pour gagner de l'argent pour financer le djihad. Bon, il y a eu aussi des débats sur est-ce qu'il faut aller faire le djihad en Irak, des choses comme ça. Bon, donc, un courant salafiste pluriel qui a connu une phase d'ascension, mais qui cette phase d'ascension est un peu passée. Et puis, des acteurs beaucoup plus importants, à mon avis, et qu'on tend à oublier. Et les premiers acteurs de ce type, c'est les frères musulmans. On parle très peu de la présence des frères musulmans dans les Balkans, donc des islamistes. Or, les frères musulmans, à mon avis, sont beaucoup plus influents que les salafistes dans les Balkans, et en particulier dans les institutions religieuses islamiques. Je prendrai deux exemples. Le premier, c'est la Bosnie-Herzégovine, où de toute évidence, le chef de la communauté islamique, jusqu'à récemment, puisque maintenant il s'est retiré, Mustapha Tseric était clairement dans la mouvance des frères musulmans, et où des oulémas liés à la mouvance des frères musulmans ont pris des positions clés, en particulier au sein des instituts pédagogiques islamiques, donc les instituts qui forment les professeurs de religion pour les écoles. Et puis un deuxième exemple, c'est la Bulgarie, où deux mouftis liés aux frères musulmans ont, il y a quelques années, créé une scission au sein des institutions religieuses islamiques pour créer leurs propres institutions religieuses islamiques dissidentes. Mais les frères musulmans, les islamistes, qui ne sont pas à confondre avec les salafistes, hein, les salafistes et les frères musulmans se détestent. Et n'arrête pas d'écrire pique-pendre sur les uns ou sur les autres. Et puis, autre acteur très important, c'est la myriade des acteurs turcs. Et depuis le milieu des années 2000, ce sont les acteurs turcs qui sont en pleine ascension dans la région. Alors, ça va du Diyanet, donc de la direction des affaires religieuses de l'État turc, à des mouvements néo-soufis. En particulier au mouvement que vous connaissez peut-être de Fethullah Gulen, qui ouvre des collèges et qui édite des journaux un peu partout sur la planète maintenant. Il a commencé avec l'Asie centrale, le Caucase, les Balkans, et maintenant en Afrique subsaharienne, vous le trouvez aussi présent. Et puis on trouve aussi les acteurs islamiques, les islamistes turcs dans les Balkans. Alors ça passe soit par des ONG liées au parti islamiste, soit ce qui se fait beaucoup, c'est des jumelages entre une municipalité turque contrôlée par les islamistes et une municipalité de Bosnie, de Bulgarie, etc. Pour conclure... Passage aux politiques et passage au national de manière évidente. Mais ce qui est frappant chez les musulmans des Balkans, c'est ce caractère très tardif du passage au national. C'est-à-dire, le passage au national, quelque part, ne se fait que dans les années 90, c'est-à-dire il y a une vingtaine d'années. Et ça, c'est vraiment quelque chose... si vous comparez avec les populations chrétiennes des Balkans, le passage au national des populations chrétiennes des Balkans se fait à la fin du 19e, début du 20e, parfois plus tard. Bon, par exemple, la nation macédonienne va se cristalliser après la Seconde Guerre mondiale, mais on n'a pas de phénomène aussi tardif qu'avec les musulmans des Balkans. Donc ça, c'est la première chose. Et puis deuxième chose, visibilité accrue de l'islam, retour de l'islam dans la sphère publique aujourd'hui, pluralisation de l'islam, reconnexion de l'islam balkanique avec l'islam mondial, mais permanence des effets de la sécularisation communiste et pas de retour en arrière et aussi pas de réelle réislamisation des populations musulmanes des Balkans. Quand on les considère dans leur ensemble. Voilà, je m'arrête là.